Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr. Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, j'ai rencontré Tahir Batnidji, artiste franco-palestinien qui présente son travail au MAC Lyon. Guillaume, tu reçois Agnès Guéraud qui expose aussi au MAC Lyon. On va en parler. Mais là, elle vient nous parler aussi de son nouvel album avec Paul Régimbaud. Gaëlle, tu nous entraînes dans le monde des rêves au musée des Confluences. Et puis enfin, Thomas, tu nous fais entendre en fin d'émission les mots de Guillaume Apollinaire dans Le flâneur des deux rives. Nous terminerons avec les Gédéons pour finir en beauté. Nous débutons avec une rencontre dans une salle de musée. Tahir Batnidji, un artiste franco-palestinien, en quelques mots, il évoque pour nous une de ses œuvres, Au cas où, et son parcours personnel.
Vous exposez ici un travail pluridisciplinaire, à la fois de la photographie, de la vidéo, de l'objet, enfin il y a beaucoup d'éléments. C'est un parcours à la fois personnel et à la fois aussi dans les événements que nous traversons actuellement. Ici, nous sommes dans une salle blanche avec des centaines de photos de trousseaux de clés. Est-ce que vous voulez bien nous parler de cette œuvre en particulier ?
En fait, c'est une œuvre dont la conception avait commencé à peu près au mois de mars 2024. Et c'est un travail qui a pour sujet les trousseaux de clés, familles palestiniennes qui ont été obligées de quitter leur maison, surtout des gens qui habitaient Gaza et le nord de Gaza, vers le centre et vers le sud, et dont la plupart étaient bombardées, complètement détruites ou sinon inhabitables. Et donc mon idée, c'était de demander aux gens de m'envoyer des photos de leurs clés de maison qui ont accepté, soit c'est des gens que j'ai contactés personnellement, y compris aussi de membres de ma famille, ou des gens m'ont aidé sur place pour collecter ces photos des clés. Donc ça s'est fait sur plusieurs mois et c'est un travail que j'ai pas tout à fait terminé. J'ai encore des clés qu'on ne montre pas ici parce qu'il fallait s'arrêter un certain nombre pour l'exposition, etc. etc. Les clés, c'est donc voilà, c'est pour moi, il était important d'attirer le regard sur cette réalité aujourd'hui. Ces clés qui ne servent plus à rien en fait parce que les maisons n'existent pas.
Puis la clé, c'est le symbole de la sécurité. Quand on ferme à clé chez soi, on se protège.
Voilà. Et puis c'est un projet qui, enfin, les clés vraiment, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon travail sous plusieurs formes. Et comme vous l'aviez dit au début, mêlant à la fois le personnel et le collectif, parce que les deux sont extrêmement liés. Dans d'autres séries ou dans d'autres projets, par exemple, il y avait un projet qui porte le nom de le même titre que ce projet-là, ça s'appelle Au cas où, où j'ai demandé aux gens, c'est une performance interactive, où je demande aux gens, les passants de l'expo, les visiteurs de l'expo, de faire une copie de leur trousseau de clés sur une machine, une photocopieuse. Et au fur et à mesure, les copies de clés sur A4 sont imprimées sur le mur. Ça s'appelait Au cas où. Et là, c'est Au cas où dièse 2. C'est dans, pour que ça soit un peu dans la continuité. Mais là, je demande vraiment aux gens qui sont à Gaza, qui sont maintenant dans des ou dans nulle part, enfin dans le... et ils attendent voilà, que la guerre s'arrête, et ils sont exposés à tous les dangers à tout moment. Ils me confient voilà, les images de leurs clés.
Vous avez aussi une série qui retrace votre parcours pour être naturalisé français jusqu'à votre naturalisation, ouais. Avec des papiers administratifs, ouais. Et qui sont tout à fait éloquents puisque finalement on ne nomme même pas la Palestine, hein, c'est-à-dire que elle disparaît. Il n'y a même pas de pays depuis 48.
Tout à fait, c'est une histoire de la négation en même temps. Ça commence avec un laissez-passer, c'est un document de voyage qui était délivré par l'armée, l'administration militaire israélienne à Gaza, et c'est la dernière copie de ce laissez-passer qui était valable un an seulement et avec lequel je suis parti pour la première fois en France, que j'ai toujours gardé et dans lequel, dans la case nationalité, elle est écrit undefined, c'est-à-dire inconnu, pas de nationalité. Et suivi de le passeport palestinien qui était conçu selon les accords d'Oslo entre Palestiniens et Israéliens, mais dans lequel il n'y a même pas la case nationalité, parce que pour éviter la polémique, suivi de la carte de séjour française, et curieusement, le pays s'était marqué la Palestine, nationalité palestinienne, tout va bien. Mais quand je demande la nationalité française, j'ai commencé ma demande de naturalisation, comme on appelle ça. il était impossible pour la préfecture de décrire la Palestine. Comme si, n'étant pas encore français, ça leur était égal que je mette Palestine ou pas, mais quand on devient français, la Palestine ne doit pas exister. On voyait un acte de naissance pour remplir, pour établir un acte de naissance français. Donc j'ai mis naturellement, pour mes parents surtout, qui sont nés avant la création d'Israël, en 1931, j'ai mis naissance Gaza, Palestine. Et donc l'employé de la préfecture me répond comme quoi il lui était impossible d'indiquer Palestine comme un pays de naissance pour les événements survenus en 48, mai 48. Et donc cette phrase, je la grave dans le marbre, comme sur une pierre tombale, et qui est montrée en dessous de ce cadre où il y a la lettre, voilà, jusqu'à l'obtention de la nationalité française.
On est content de vous compter parmi nous, en tout cas. Merci beaucoup, c'était très agréable de converser avec vous. Merci.
Merci, vous êtes la bienvenue. Merci.
Les œuvres de cet artiste et bien d'autres sont à voir en ce moment au MAC Lyon, dans le cadre de la 17e Biennale d'art contemporain. Hello Guillaume, cette semaine tu es accompagné de la charmante Agnès Guéraud qui est venue sur notre plateau. Bonjour à tous les deux et merci d'être là.
Bonjour Agnès, alors double actualité comme le disait Gaël. D'abord un album avec un nouveau projet, mais on verra que c'est pas tout à fait un nouveau projet. Et puis une œuvre effectivement au MAC Lyon pour la 17e Biennale, une œuvre qui s'intitule 69 stratégies obliques pour faire des chansons d'amour. Je le lis sur mon papier parce que sinon j'aurais jamais retenu le titre. Mais on va d'abord s'intéresser à ce nouveau projet, Grive, qui est donc un projet avec toi, tu l'as dit Gaël, avec Paul Régimbaud, qu'on connaît quand même ici à Lyon, parce que il a fait Oiseau Tempête, Foudre, Mankoff, tout ça. Et puis d'autres musiciens, dont Jean-Michel Pires, qu'on connaît bien aussi, parce qu'il a joué dans Mendelssohn, et dans surtout Bruit Noir désormais. Et puis aussi Léa Moreau au clavier, qu'il ne faut pas oublier. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet, comment il est né en fait?
Eh ben, Paul Régimbaud, c'est un ami depuis très longtemps, hein, quand j'étais parisienne, mais ne venant pas de Paris, et ça, c'est un élément qui compte, parce qu'en fait, on vient tous les deux plutôt des Hautes-Pyrénées. Lui de Toulouse, et moi je venais de Toulouse parce que j'y avais fait une partie de mes études, mais surtout de Tarbes.
Quatrième
mais
album.
Voilà, disons que Paul, voilà, c'était un peu ce genre de personnage amateur de musique, à la fois folk, mais ça, avec un spectre assez, qui pouvait aller jusqu'à des musiques extrêmes, noise. Et en même temps, enfin, voilà, le parangon de ce genre d'amateur de musique extrême qui est hyper gentil. Et donc j'ai toujours bien aimé ce genre de caractère, finalement, de sorte d'hypersensible comme ça de la musique. Et donc on est devenus amis. Et au départ, c'est vraiment une histoire d'amitié et d'admiration réciproque. Parce qu'il faisait déjà Mondkop quand je l'ai connu, et je faisais déjà La Féline quand il m'a connu. Il est venu me voir en concert. Donc voilà, il y a une longue amitié, une longue entente.
Je crois qu'il avait remixé certains titres.
Un remix, voilà, il a fait un remix que je trouve génial, hein, d'un de mes tout premiers titres publiés, du moins, qui s'appelle Three Graces, Trois Grâces, à l'époque où j'écrivais pour La Féline, mais en anglais. Et puis voilà, de remix en remix, on s'est dit, bah, collaborons sur un morceau. Et on a fait une reprise de Gérard Mancé. En fait, on a fait deux versions, une version mondkopienne, on va dire, avec voilà, tout un attirail de puissance. Sonore, plutôt synthétique. Et puis, on a fait une version pratiquement un guitare-voix, lointainement accompagnée par Paul, qui s'y est fait beaucoup plus discret, mais qui avait vraiment un rôle d'inspiration, en fait, aussi. Et parce que le morceau, donc ce morceau de Mancé, qui est assez épique, et en même temps, il y a quelque chose de... C'est presque un morceau... sur une espèce de virilité comme ça qui s'affaisse, qui succombe, et chanté par une femme, ça produit quelque chose, voilà, qui nous intéressait humainement, en fait. Il y a vraiment ce... On a fait à un moment donc une résidence à PAF en Picardie, donc il y a le Performing Art Forum, qui est un lieu où il y a plein d'artistes qui se rencontrent. Bah, alors, et on a enregistré voilà, un premier EP, mais qui n'est sorti lui-même que 5 ans après avoir été enregistré. Et puis... Finalement, c'est Talitre, hein, le label.
L'excellent
Talitre.
Bordelais.
Fantastique label, vraiment, on est ravis d'être chez eux. Qui a entendu ces maquettes, qui a aimé, et qui nous a donné en fait la motivation pour faire un album complet et sortir ce disque.
Tu peux lire son titre parce que j'ai du mal à le dire.
Voilà,
tout à
et le titre du disque, c'est marrant parce qu'il vient de son image. Donc sur la pochette, on voit une maison qui s'effondre et en fait, c'est une image que j'ai trouvée sur le site de la Bibliothèque du Congrès. Et donc, c'est une photo des années 60 où on voit la destruction d'une maison plutôt de style européen qui est en fait la maison du président Grant qui est détruite pendant les années 60 et on voit un gros caterpillar devant. Pour moi, Griffes, ça a toujours été... Il y a un lien avec la question de la maison, de l'habiter, de... Bref, il y a un morceau qui s'appelle Burger Shack, comme ça, et l'image, c'était une petite maison. Et donc, voilà, la maison qui s'effondre, ça disait vraiment ce mélange à la fois d'espace qu'on a envie de rendre familier et qui, en même temps, est tremblant, s'effondre, et menace d'être une ruine, quoi.
Oui, puis c'est quand même un disque qui raconte des histoires, puisque le titre, c'est Tales of Uncertainty.
Et tu vois, et voilà, donc cette incertitude.
Conte d'incertitude. Moi, j'aime bien dire conte plutôt que histoire, en fait.
Ouais, c'est conte, hein. C'est vrai. C'est conte, ouais. C'est conte, sachant que le conte, à mon sens, est plus proche, enfin, c'est un analogon plus proche de la chanson que l'histoire qui peut être très longue, tu vois. C'est pas des épopées, ce sont des chansons. Donc, il y a cette brièveté. Et en même temps, voilà, c'est toujours des états psychiques plus ou moins altérés ou alors de sentiments de dédoublement ou de sentiments du temps. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve aussi dans la féline. Enfin, pour moi, c'est lié à la musique, quoi, hein, le sentiment
alors,
du temps.
Alors, toi, tu avais quand même écrit un livre qui s'appelait Dialectique de la pop. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est en France, on veut mettre les gens dans des cases. Alors, Dream Pop, Shoegaze, Slowcore, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est assurément rock. Récemment, on a reçu un groupe qui s'appelle It Girls. C'est pareil, impossible de les mettre dans des cases. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que sur Facebook, sur votre page, alors, vous avez mis un truc Dream Slowcore Band, Stone Grass and Concrete, Rural Supermarket, Musical Shelter. C'est quand même très bizarre.
Supermarché de campagne, abri musical. Ouais, c'est pour moi, c'est parce que c'est très cinématographique. Tous les deux, on est comme ça, hein, Paul aussi est comme ça. La musique véhicule des images pour nous, des images. C'est pour ça que c'est et dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est très cinématographique.
Ah bah il y a certains titres, moi je les vois tout à fait dans Twin Peaks, dans le Roadhouse là. Là-bas.
C'est ça. Et puis je pense que c'est vrai. C'est vraiment des paysages mentaux qui sont des formes de propositions d'apaisement, mais lucides.
Oui, parce que quand
face à un monde qui s'effondre plus ou moins.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a des morceaux qui sont assez inquiétants. Hein. Je pense notamment à ce titre sur l'addiction aux écrans, finalement, qui fait un petit peu peur. Les paroles font un petit peu peur, mais c'est notre quotidien.
C'est ça. Et j'avais envie que ça soit comme une espèce de voix de Cassandre. J'aime bien l'idée, pour le coup là c'est la langue anglaise qui m'amène un peu à ça, et le traitement de plein de cœurs et tout ça. J'aime bien l'idée que cette chanson, c'est vraiment une chanson de Cassandre, c'est une espèce de pitié comme ça qui vient dire que la destruction, enfin voilà, que quelque chose va se passer, que les rapports de domination pourraient peut-être changer. C'est politique, mais je me mets pas sous une bannière.
Oui, c'est pas moralisateur, c'est
non,
pas pour donner
voilà,
leçons.
J'ai pas envie de faire la leçon, c'est pas la question. Par contre, oui, la lucidité, le vertige de l'époque dans laquelle on vit, ça, je pense que c'est fait partie du rôle de la musique de l'exprimer quand même.
Alors, je te l'avais dit en privé, on va écouter un titre. Moi, c'est pas celui dont on vient de parler. Moi, j'aime beaucoup un titre qui s'appelle Darkest Woman on Earth, parce que voilà, moi, il me touche beaucoup ce titre. On va écouter ce morceau.
On l'aime beaucoup aussi. Paul, il est fan de ce titre. My eyes
like yours. Cause darling, I've been standing long under your window, babe. Under your windows, your window.
Darkest Woman on Earth du groupe Grieve, extrait de cet album paru chez Talitre donc en octobre, je crois le 11 octobre, Tales of Uncertainty. Look at those stairs just mean to break your heart. C'est fort aussi ça.
Oui.
Alors oui, il faut un petit peu parler l'anglais, mais ouais. Malgré tout, voilà, il y a quand même des choses, je dis pas philosophiques, mais voilà, qui font quand même réfléchir au monde dans lequel on vit.
Ouais, tout à fait.
Mais alors cette femme alors
C'est à la fois moi et c'est à la fois... je pense que c'est quand même une chanson d'amour, mais qui est pas totalement désespérée, parce que précisément le pic dans le regard, dont l'intention est de briser le cœur, sont forcément trop orientés pour être dénués d'amour, en fait. Enfin, je pense toujours, c'est con, mais tu sais, dans le Cid, quand Chimène qui dit va, je ne te hais point. Et voilà, enfin, c'est évidemment une déclaration d'amour, cette chanson.
Et l'album, il est constitué que de 8 chansons, mais ce qui est bien foutu, c'est qu'il y a un dernier titre, qui s'appelle The Loop, et qui est constitué d'une seule phrase. Et en fait, dès qu'on a fini le morceau, on a envie de remettre le disque au début.
C'est
en fait.
Parfait.
C'est très habile. Et alors, d'où est venue cette phrase ? My head is spinning everything.
turns in a loop. Ouais. My head is spinning. Ouais. Et bah alors moi, la loupe, c'est quelque chose qui est important pour moi, à la fois en tant que musicienne, parce que bah, je travaille avec des instruments soit magnétiques, soit numériques, et que, comme on sait hein, depuis Steve Reich, eh bien, ça permet, non, au-delà même de la répétition, bah, ça permet des répétitions à l'identique, et les ordis et les magnétophones. Donc voilà, étant une musicienne de pop de la fin du XXe siècle, je suis dans cet outil-là, de toute manière. Puis voilà, c'est aussi une forme de la pensée, donc il y a la question de quelque chose d'obsessionnel, ou d'un enfermement aussi.
On peut peut-être parler de certaines dates de concert. Alors, notamment, il y a une date au Petit Bain le 16 janvier, je crois.
Voilà,
le lendemain au Grand Mix à Tourcoing. Et puis, on peut espérer d'autres dates.
Voilà, oui, elles arrivent. On va avoir Tulle. J'ai oublié les noms.
Alors, on passe à ta deuxième.
Mais on va pas s'arrêter là.
Voilà, on passe à ta deuxième actualité. Donc, au MAC, la 17e Biennale. Une œuvre finalement assez conceptuelle comme tout ce qui est au MAC, mais une œuvre qui s'active, si j'ose dire. Enfin, il faut être là peut-être au bon moment pour qu'il se passe des choses. Tu peux nous expliquer quelles sont ces stratégies et d'où c'est venu cette idée?
Alors au départ, bon, moi je suis pas plasticienne, hein, donc quand Alexia Fabre m'a dit bah, je te donne carte blanche, fais ce que tu veux, j'ai trouvé ça très chouette, je l'ai pris vraiment comme un terrain de jeu, et j'étais en train de réfléchir aux chansons d'amour, à la fois en faisant pour le prochain album de La Féline et en écrivant sur la question, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de texte, en fait il y a beaucoup de textes qui s'appellent chansons d'amour mais qui... pas vraiment qui traite de cette question, sauf un d'un anthropologue et musicologue qui s'appelle Ted Gioia et qui s'appelle The Hidden Histories, History of Love Songs, que je vous recommande, c'est fantastique. Bon bref, et donc j'ai eu envie en effet de faire un dispositif, et ce dispositif c'est que j'ai fait un jeu de cartes sur le modèle des stratégies obliques de Brian Eno. Donc les stratégies obliques, c'était justement un jeu de cartes qui donnait des conseils, des sortes d'aide à la composition pour des musiciens dans leur studio, quoi, à inspirer plus ou moins du Tao et d'idées plus ou moins farfelues, donc par Brian Eno et Peter Schmidt. En 75, ils sortent ce jeu. Moi, je reprends juste l'idée d'un jeu de cartes et du hasard, et sauf que j'ai réinventé complètement tous les conseils dedans, et avec cette exigence que ce soit des conseils bah, qui soient à la fois amoureux et musicaux. Et donc je me suis rendu compte qu'il y en a eu plein où ça matchait pas mal. Alors bon, après il y a des petites blagues, tu vois, il y a une carte par exemple qui s'appelle plus de filtres, mais filtre écrit avec PH.
Ah oui, bien sûr, le filtre d'amour.
Tu vois, par exemple. Donc bon, des choses comme ça où chante, tu réfléchis trop. Bon, après il y a une version anglaise, une version française. Et donc mon idée, ça a été de donc en faire 69, petite référence à ce magnifique album des Magnetic Fields qui s'appelle 69 Love Songs. Et donc je voulais surtout pas être seule dans ma pièce, j'avais envie que ça soit quelque chose de collectif, et donc j'ai invité plusieurs groupes, il y en a 5 en tout, à venir jouer, et donc ils viennent, j'ai fait construire donc un petit studio d'enregistrement dans le MAC, où les gens viennent, enfin les musiciens viennent, avec une idée de reprise, et ils tirent des cartes au fil de la journée, et c'est censé influencer leur interprétation, parce que si m'intéresse... Ce que je cherche aussi, là, théoriquement, après Dialectique de la Pop, tu vois, j'ai envie de réfléchir à ce que c'est que l'expression. Que ça veut dire l'expression, qui est une forme qui est un petit peu réprimée justement dans l'art contemporain. On construit, on fait des dispositifs, mais justement l'expression avec la dimension affective, elle est un petit peu réprimée, en tout cas dans le discours moderniste, alors peut-être un peu moins aujourd'hui. L'idée, c'est que, bah, que les chants des gens soient infléchis, en fait. Tu vois, il y a une carte, par exemple, qui dit « Interprète tout le morceau en regardant quelqu'un dans les yeux ». C'est hyper difficile, surtout si c'est une chanson d'amour. Et donc, des choses comme ça. Voilà, donc, ces chansons sont enregistrées pendant une journée, et maintenant là elles sont diffusées. Donc là il y a déjà 3 groupes qui sont passés. Bon, il y a eu La Féline, il y a eu Sarah Maison, il y a eu Pélo Gauger, et puis là le 30 novembre il va y avoir Hélène Island qui a un solo plutôt R&B pédagogique étrange, et puis
le 4 janvier
Nadi, Fit Officium. Et eux ils viennent de la noise plutôt, donc ça m'amusait aussi d'aller chercher dans des genres un peu inattendus. Mais idéalement j'aurais aimé que le studio soit ouvert en permanence. place et que ça soit hyper démocratique, qu'en fait tout le monde puisse s'essayer à ce geste.
C'est pas la première fois qu'il y a un studio au MAC, parce que dans l'expo Robert Combas, ouais, avait fait des concerts, bon, là c'était encore particulier, oui, avec les 100 pattes, voilà.
Ouais,
mais
ouais,
c'était pas de l'ordre de la création in situ, là, voilà, avec, ouais, avec un jeu comme
c'est
tu
ça,
le proposes.
C'est ça.
Bon, ben, en tout cas, on invite tout le monde à aller voir cette œuvre. C'est donc dans le cadre de la Biennale d'Art Contemporain, la 17e.
Voilà.
Je crois que c'est jusqu'au 6 janvier. C'est ça, 5, voilà.
Oui.
5 janvier. Et puis évidemment, il faut aller écouter Grieve soit en concert, soit acheter le disque, paru chez Talit le 11 octobre. Tales of Uncertainty.
Bravo.
Vraiment un très, très grand disque. Voilà. En tout cas, un disque à la fois qui raconte des choses, comme tu le disais, mais un disque d'atmosphère. Peut être parfois inquiétant, mais en fait, non, il est assez lumineux. Quand je l'écoute, je pense à Soulage. Parce que le noir de Soulage, oui, c'est noir, mais en fait, c'est plein de lumière. Et pour moi, c'est exactement ça, cet album.
Bah,
et les guitares sont incroyables.
Compliment.
La batterie métronomique de Jean-Michel Pinas est incroyable.
Super, il est super.
Voilà, c'est vraiment
un
très grand disque, je pense, de cette année. Voilà.
Merci.
On te remercie, bon. Agnès. Et puis, bah, à la prochaine pour la Féline.
À la
aussi.
Prochaine, oui. Merci beaucoup.
Thomas, la lecture cette semaine est consacrée à Guillaume Apollinaire. Tu nous fais entendre un extrait du Flâneur des deux rives. On en parle juste après.
Si vous passez rue de Poissy, arrêtez-vous au 14 et essayez de visiter le petit musée napoléonien qui s'y trouve. Avant la guerre, ce musée avait son organe, le journal du musée. Je ne sais s'il y eut en France et même dans le monde entier de plus curieuses gazettes que le journal du musée. Bimensuel, premier et le 15 de chaque mois. Direction 14 rue de Poissy, abonnement 3 francs par an. Imprimé en violet au polycopiste, il paraissait sur deux pages à trois colonnes. Cette feuille était publiée par un enfant de 10 ans pour servir d'organe de publicité au petit musée qu'il a fondé à la même adresse et qui est consacré à Napoléon. Ce musée napoléonien est peu connu. Il contient des choses intéressantes et précieuses réunies par ce gamin. Des libraires, des antiquaires, des amateurs, séduits par l'initiative de cet enfant, augmentent par des dons les richesses du musée imprévu. Les abonnés étaient nombreux, m'a-t-on dit, et le journal paraissait en général très régulièrement. Il se vendait à raison de 10 centimes le numéro. J'ai sous les yeux un exemplaire de ce journal singulier. Pour article de tête, la suite d'une vie de Napoléon, par G. Ducoudray, s'étend sur une colonne et demie. Après quoi, la rubrique « Le musée » contient d'importants renseignements. Le musée est rouvert, personne ne le reconnaîtrait. De grands changements se sont produits. Nombre dons enrichissant le musée, parmi lesquels ceux de messieurs Thiébault et Mattei. Un avertissement final nous fait savoir que, par suite d'un accident survenu au tirage, le numéro est paru avec 15 jours de retard. Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs. Aucun nom de gérant, aucune mention d'imprimeur ne légalise la publication de ce petit journal dont une des principales singularités, l'âge de son directeur et rédacteur en chef, est appelée à disparaître tandis que, pour nous comme pour lui, s'écouleront les années. J'ai connu d'autres enfants qui s'amusaient à publier des journaux. Mais c'était toujours des journaux manuscrits à un exemplaire qu'on se passait de main en main au collège. Je me souviens notamment de l'un de ces pamphlets calligraphiés en encre de couleurs variées, noir, violet, vert, bleu, jaune, rouge. Il devait paraître toutes les semaines et l'abonnement se payait en friandises, réglisse, cassonade, boîte de coco, etc. Mais il n'y eut point de second numéro. Une petite fille, qui est aujourd'hui presque une jeune fille, s'était associée lorsqu'elle avait 10 ans avec un petit garçon de 7 ans, dans le but de publier un journal. Elle recueillit des abonnements pour la somme de 30 francs, sur lesquels elle donna 5 francs au petit garçon, et avec le reste s'acheta du chocolat. Car ce qui lui paraissait la réussite anticipée de ses espérances avait donné une entière satisfaction à son besoin d'activité. C'est ainsi qu'un succès prématuré est presque toujours une cause de décadence pour un poète, un artiste quel qu'il soit.
C'est plein d'humour.
C'est un extrait d'un livre. Comment est-ce qu'on peut le qualifier d'un roman ou
non, c'est un recueil.
C'est un recueil.
C'est un recueil. Et puis il y a
des petits textes courts.
Parties, finalement. Ouais. La première partie, c'est vraiment des flâneries. C'est-à-dire que Apollinaire se déplace dans des faubourgs de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Grand Paris.
Ouais. Hein,
et avec toutes ces petites maisons un peu défraîchies, voire carrément ruinées dans certains cas, qui au fur et à mesure de l'avancement de la modernité disparaissent. Donc lui-même, à quelques années d'écart, ne reconnaît pas certains endroits.
Certains quartiers.
Voilà, et puis il passe à certaines adresses et il donne la vie qui va avec. Donc là, en l'occurrence, ce petit musée napoléonien. Donc on est loin de l'Apollinaire qu'on peut connaître
c'est
par
vrai,
ailleurs.
Hein.
C'est là, pour le coup, ce n'est pas du surréalisme avec un peu d'avance. Là, c'est purement du réalisme, au contraire. Mm-hmm. Et c'est
réalisme
très réjouissant.
Social d'ailleurs,
tout à fait.
Avec une vision de la société.
Et une inscription dans le paysage qui me tient à cœur.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça que je l'ai ramené dans mes bagages.
Ouais. Très, très beau. Merci beaucoup pour la découverte. Je ne connaissais pas ce texte.
Merci Gaëlle.
Gaëlle, cette semaine, tu nous plonges dans l'univers des rêves avec la nouvelle exposition au musée des Confluences. Nous t'écoutons.
Que se passe-t-il lorsque nous rêvons ? Le thème du rêve, rarement traité, telle est précisément l'originalité du propos orchestré par le chef de projet Johan Cormier. L'exposition donne à voir une image et un récit du rêve. Entrer dans le rêve, c'est passer de l'autre côté du miroir. La scénographie très distinctive donne cette impression d'un envers de décor de théâtre en offrant une déambulation dans un vaste labyrinthe sonorisé. Le parcours s'ouvre sur une grande projection. Positionné en hauteur, levez donc bien les yeux. Puis, en baissant le regard, la petite pieuvre Heidi, issue de la vidéo Octopus Making Contact d'Anna Fitch, vous accueille. La pieuvre change d'aspect, tout en dormant. Elle fait mimétisme avec son environnement. Cette action de camouflage est-elle dictée par ses rêves ? Quid des rêves des animaux ? Et les oiseaux, rêvent-ils aussi ? Sans doute. Leur sommeil est d'ailleurs captivant. Certaines espèces dorment, même en plein vol, une partie de leur cerveau dormant, l'autre restant alerte. L'exposition « Le temps d'un rêve » soulève de fascinantes questions. La science, qui s'attelle à l'étude des rêves, partage le fruit de ses recherches dans une vaste fresque scandée de multiples questions-réponses. Rêvons-nous sous électrode ? Sommes-nous tous égaux face aux rêves ? Est-il possible de rêver tout en étant conscient de rêver ? Oui. La première expérience date de 1975. Les adeptes du rêve lucide se nomment les onironautes. Vous apprendrez également qu'odorat et goût sont rares dans les souvenirs de rêve. L'exposition combat aussi certaines idées reçues. Exemple, les rêves sont courts. Non, des études ont démontré que les rêves duraient longtemps. Et à quoi ressemble formellement un rêve ? Justine Aymar propose une matérialisation issue de signaux électriques enregistrés lors de son sommeil, ainsi qu'une série de sculptures. Leur forme s'inspire de mesures encéphalographiques faites sur des astronautes de l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ces objectivations du rêve spatial sont hypnotiques et féeriques. Tout autant fascinant, l'espace dédié au sanctuaire d'Asclépios, dieu grec de la médecine et de la guérison. Son attribut est un bâton autour duquel s'enroule un serpent. Certains pèlerins malades allaient dormir à proximité du temple d'Asclépios, à Épidaure, afin d'obtenir, sous la forme d'un rêve ou d'une vision, le diagnostic de leurs maux, dans l'espoir d'une guérison. Pour mieux s'emparer de ce lieu antique, le musée des Confluences diffuse, et ceci est une première, un extrait de la série Assassin's Creed Odyssey avec le jeu vidéo Discovery Tour Ancient Greece, qui comporte une reconstitution du sanctuaire d'Asclépios. Les nuits passées à proximité du temple d'Asclépios, nuit nommée rite d'incubation, prophétique, seraient ainsi les ancêtres de nos consultations médicales. L'exposition élargit le propos onirique à d'autres cultures, mexicaines, péruviennes ou encore inuites, qui perçoivent dans le rêve le retour de défunts et une communication avec l'au-delà. L'art aborigène, célèbre pour ses matérialisations du dreaming, fameux temps du rêve, est abordé avec le dreaming du petit marsupial et du serpent arc-en-ciel, l'être de rêve originaire. En Italie, dans le Frioul, existe l'idée du rêve partagé, rêver ensemble comme une sorte de sorcellerie. Italie toujours, le rêve peut vous faire gagner au loto. Avec la Smorfia napolitaine, les Italiens jouent au loto, la combinaison numérique obtenue après l'interprétation de leurs rêves. Aussi, un capteur de rêves algonquin, une communauté autochtone du Québec, montre combien les mauvais rêves peuvent être éloignés par l'attrape-rêve, filtre d'ailleurs parfois rapproché de la toile d'araignée. L'exposition évoque ces mauvais rêves. Or, il ne faut pas toujours blâmer les cauchemars. Des études ont par exemple prouvé que faire un cauchemar la veille d'un examen permettait de mieux le réussir. Ne niez pas le cauchemar. Plus on répète son histoire, plus on peut la conjurer. Le cauchemar, grand testeur et régulateur de nos émotions, possède un réel pouvoir cathartique. L'exposition Le temps d'un rêve passionne par l'ampleur de son propos, jusqu'aux fluctuations entre réalité et imaginaire. La sculpture de l'artiste belge Hans Hop de Beck capture remarquablement ces moments de flottement. Une femme dort, le titre évoque que son lit est un radeau, mais aucune voile n'est présente. Des nénuphars parsemés autour de son lit évoquent un plan d'eau. Quid alors de la réalité de sa chambre? La sculpture matérialise cet instant de lâcher prise, quand les songes nous gagnent. Une autre sculpture, une taxidermie de Thomas Grunfeld, représente un corps d'âne avec une tête de coq. Nouvelle incarnation entre réel et imaginaire. Autre métaphore propre aux associations libres qu'incite le rêve. Pour l'interprétation des rêves, Freud, le père de la psychanalyse, est immanquablement convoqué avec le concept de figurabilité. Ce qui est figurable sans être figuration, c'est-à-dire la transformation d'une idée en image. Le divan freudien prend alors tout son sens, celui de dormir. Autre théorie d'interprétation des rêves, l'oniromancie, qui explique la signification des objets ou animaux présents dans les rêves. Une carte postale intitulée « La clé des songes » recense certaines interprétations. Rêver par exemple d'un clou indiquerait que le déshonneur entre dans votre famille. Pour se souvenir de vos rêves, il faut les noter. Vous pourrez ainsi lire les récits de rêves de poilus ou encore de prisonniers pour lesquels le rêve permet une évasion mentale. Le rêve nourrit également la création artistique. Le surréalisme s'est largement emparé du rêve en tant que moteur créatif. Cas également pour les musiciens. La célèbre chanson « Yesterday » aurait ainsi été révélée à Paul McCartney lors d'un rêve. En fin de parcours, vous êtes invité à décrire en quelques mots la plus belle image qui vous soit apparue en rêve et l'IA, l'intelligence artificielle, vous le dessine. Stupéfiant. Haute première du Musée des Confluences, l'utilisation de l'IA dans une exposition. Captivante et éblouissante, l'exposition Le temps d'un rêve est recommandée. Elle est programmée jusqu'au 24 août 2025. Plus d'informations sur museedesconfluences.fr.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne vraiment, vraiment envie.
Nous terminons comme chaque semaine avec nos coups de cœur, nos incontournables Gédéon. Gaëlle, avec quoi es-tu venue cette semaine ?
Mon Gédéon de la semaine est la réouverture après un an et demi de fermeture d'un musée de la région, le MAMC+. Après d'importants travaux de rénovation favorisant de meilleures circulations dans des salles d'exposition reconfigurées, le MAMC+, soit le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, a rouvert. Depuis le 9 novembre, quatre expositions célèbrent cette réouverture. L'une, liée au chantier de rénovation du musée, s'intitule « Hors format ». Boine New, la deuxième, met en avant les acquisitions récentes et les donations. 1000 m² accueille 150 œuvres de 20 artistes, œuvres datant des années 60 à nos jours. La troisième exposition consacre le photographe georgien David Meski, fils de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de gymnastique de l'ex-URSS. Ses photos rendent hommage et magnifient, entre autres dans des prises de vue aériennes, les corps en mouvement. Enfin, la dernière exposition honore la création émergente avec la lauréate de la 11e édition du prix des partenaires du musée, un prix dédié aux arts graphiques. La lauréate, Anne Bourse, propose des installations dans lesquelles des assemblages de fils dialoguent avec la ligne dessinée et la tradition stéphanoise de la rubanerie. vaste et riche programme pour la réouverture du Musée d'Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne. Plus d'informations sur mamc.saint-étienne.fr.
Merci beaucoup Gaëlle, en effet on va y aller parce qu'il nous a manqué quand même ce musée. Hein. Je sais s'il proposait des expositions vraiment intéressantes et pertinentes. Alors Guillaume, cette semaine?
Ben moi je viens avec un disque, on vient d'écouter Agnès Guéraud avec son label Talitre qui a sorti l'album de Grive. Et bien moi je vous propose d'écouter un artiste de la région qui est sans doute le bijou le moins connu en fait de Lyon. Voilà, mais qui est absolument formidable. C'est son quatrième album. Il en a fait un autre avec Théo Charaf. Il s'appelle Raoul Vignal. C'est absolument extraordinaire. Si vraiment vous avez pas le moral, mais c'est lumineux, c'est très doux. C'est sans doute le meilleur picking de Lyon, enfin même de la France, du monde, on pourrait le dire. Son album s'appelle Shadow Bends. Ça sort le 8 novembre et c'est chez Talitre, pardon, le label bordelais. On va écouter un morceau, Icarus. Icarus qui ouvre ce formidable album de Raoul Vignal qui s'intitule Shadow Bends. Alors la dernière phrase, je l'ai traduite en français. Dis-moi comment tu t'es senti avec le soleil sur ton visage. Pourquoi as-tu couru après ce destin? Voilà, c'est un très très beau disque. C'est une caresse musicale. Moi, je vous invite à l'écouter, Raoul Vignal.
Merci beaucoup. En effet, c'est doux aux oreilles, une caresse musicale. J'aime beaucoup cette référence. Je la note. Pour ma part, ce sera BD avec la sortie du second volume de « Moi, ce que j'aime ». C'est les monstres de l'américaine Emile Ferris. Reconnue pour sa technique de dessin unique au stylo bille, elle livre avec ce nouveau tome de 416 pages une histoire dans la continuité de son premier opus, paru en 2017. Celui-ci avait été couronné du Fauve d'or à Angoulême en 2019. Celle Kurt Spiegelman, auteur de Maus, considère comme l'une des plus grandes artistes de BD de notre temps, propose ici une narration davantage tournée vers l'introspection, mais qui ne cède rien en intensité. Récit de l'enquête autour de la mort d'Anka Silverberg, qui se poursuit, « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres 2 », plonge le lecteur in media res dans le Chicago des années 60. La survivante des camps de la mort, assassinée d'une balle en plein cœur, était au centre de l'intrigue dans le premier volet. Un mystère qui ne cesse de hanter Karen Reyes, héroïne de la saga. Une jeune louve-garou, oui ça existe, détective en pleine puberté, oui, c'est l'héroïne de cette BD. Dans ce nouveau tome, l'histoire se resserre autour de la jeune monstre et de sa famille à travers la mise en lumière de ses doutes, de ses interrogations, à la fois identitaire et sexuelle, la quête de sens de Karen, caractéristique de l'adolescence, se heurte à la dureté du monde qui lui échappe encore. Bref, si vous ne connaissez pas encore le travail de cette autrice, courez le découvrir et peut-être vous l'offrir pour Noël. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres, volumes 1 et 2, aux éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture. Merci à vous tous pour votre attention et restez curieux. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.